Alors, peut-être justement des lois sur le patrimoine immatériel, nous allons en découvrir maintenant. Je propose dans un premier temps que nous donnions la parole. Sarah González-Cambeiro, vous êtes docteur en histoire. Vous allez vous installer là. Voilà. Et donc vous allez nous parler de la situation en Espagne aujourd'hui. Et on est très curieux de découvrir à travers vous cette loi qui existe depuis 2015 et qui est consacrée au patrimoine culturel immatériel en Espagne.
Bonjour, merci Christian et merci aussi Savry, merci à tous. Bon, je veux parler un petit peu avec vous sur notre particularité. Pour comprendre la situation de la culture en Espagne, il est indispensable de faire une petite exposition sur la délimitation de compétences et de la distribution de compétences, c'est-à-dire des fonctions qui vont exercer les communautés autonomes et l'État. Les communautés autonomes sont, comme vous savez, des organismes territoriaux qui, dans l'organisation constitutionnelle de l'Espagne, sont dotés d'autonomie législative et des compétences exécutives ainsi que de capacités de gestion. Dans le domaine du patrimoine culturel, il y a ce qu'on appelle une compétence partagée, une compétence concurrente, et qui est traduite par l'adoption en 1985 d'une loi de l'État espagnol sur le patrimoine historique avec des lignes générales que les communautés ont choisi ou pas de développer. Bon, la Constitution espagnole de 1978 établit le base du système juridique du patrimoine culturel en Espagne. De son préambule, elle exprime la volonté de la nation de protéger aux Espagnols dans l'exercice de leur culture et de leur institution. Et dans l'article 46, il dit que les autorités doivent garantir la préservation et favoriser l'enrichissement du patrimoine historique, culturel, artistique. Mais il n'y a pas de place encore pour le patrimoine immatériel. Bon, selon l'article 46 de la loi du patrimoine historique espagnol, il dit que font partie du patrimoine historique le bien meuble et immeuble et des connaissances ou des activités qui sont ou ont été expression pertinente de la culture traditionnelle du peuple espagnol dans leur aspect matériel, social ou spirituel. C'est une ampliation de premier article de la loi qui disait que le patrimoine historique espagnol est composé de biens immeubles, objets meubles, d'intérêt artistique, historique, paléontologique, archéologique, ethnographique, scientifique ou technique. Bon, il fait cette petite allusion aussi au article 47, comme suit, on considère patrimoine ethnologique. Oh, c'est vraiment mal. On considère patrimoine ethnographique le connaissance ou les activités émanant des modèles ou des techniques utilisées par une communauté particulière. C'est un peu plus le rapprochement au concept du patrimoine immatériel qu'on connaît maintenant. Bon, le plan national, j'avance, sont des instruments de gestion du patrimoine culturel coordonnés par l'Institut du patrimoine culturel de l'Espagne et du ministère de la Culture. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un document contraignant, mais seulement une recommandation dans ces cas pour la gestion du patrimoine immatériel par des communautés autonomes surtout. C'est aussi un outil pour conceptualiser et guider les administrations régionales dans la gestion du patrimoine immatériel, à ces cas, avec le plan national de 2011. C'est la première fois que l'Espagne a commencé la mise en œuvre de la convention qu'on a ratifiée, aussi comme le cas de la France, je pense, en 2006. Le plan national, pour lequel je travaillais pendant quelques années, et a pour objectif principal, comme je dis, la mise en place des concepts, des critères pour la gestion. Et il dispose aussi d'un petit budget pour faire des projets d'investigation, de diffusion, de formalisation d'inventaire, etc. pour ce patrimoine. Mais Par-delà de ces objectifs, la principale visée du plan, c'est faciliter la coordination, que ce n'est pas une tâche facile, comme vous pouvez imaginer, entre les autorités compétentes de l'État et des communautés autonomes à travers de réunions périodiques d'une commission de surveillance de ce plan. Bon, après avoir examiné la présence ou l'absence du patrimoine immatériel dans la loi de patrimoine historique espagnol, on va parler de la récente et controversée loi sur la protection du patrimoine culturel immatériel. Le préambule précise que les formes juridiques appliquées à la protection et à la préservation de biens matériels ne peuvent pas être comparables aux moyens de sauvegarder le bien immatériel, tout à fait d'accord. Mais un autre, et comme l'une des questions les plus controversées de la loi est son intrusion dans les pouvoirs régionaux, car il génère, comme on verra plus tard, une nouvelle forme de protection supérieure aux biens d'intérêt culturel, une section spécifique est dédiée à l'exposition de motifs pour justifier la compétence de l'État sur ces questions. Je vais juste aborder les aspects principaux de ces articles sans rentrer dans le détail des autres questions liées surtout à la diffusion, à la transmission, qui sont traitées dans un terme très général. Bon. Dans l'article 2, la loi reprend les concepts du patrimoine immatériel défini par la Convention de 2003, assez littéralement comme dans le vôtre. Et en ce qui concerne au domaine du patrimoine immatériel, il en ajoute deux à ceux de la Convention, qui sont la préparation culinaire et l'alimentation, et l'utilisation spécifique des paysages culturels. Alors que la Convention de 2003 a supposé que les formes d'alimentation ainsi que l'utilisation de l'environnement étaient inclus dans les domaines de connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, ainsi que les rituels et les pratiques sociales par rapport à la consommation, les rituels du travail, etc. La loi espagnole détaille ces deux domaines. L'une des questions les plus controversées, comme je dis, c'est de projet de loi et de la loi telle qu'est finalement adoptée, concerne à la répartition des compétences visées à l'article 11. Il correspond à l'administration générale de l'État par l'intermédiaire du ministère de la Culture les fonctions suivantes. Proposition, développement, suivi du plan national dont on a parlé. La gestion de l'inventaire général du patrimoine culturel immatériel. Il n'existait pas, et la sauvegarde du PCI à travers la déclaration de manifestation représentative du patrimoine culturel immatériel dans les conditions prévues par la présente loi. On reprend ces deux dernières fonctions qui correspondent aux articles 12 et 14 de la loi et qui sont sans doute les plus intéressants. L'article 12 vise la déclaration de manifestation représentative du patrimoine culturel immatériel. Cette figure récupère heureusement l'adjectif représentant dans la ligne de la convention, de la liste de la convention, ne donnant pas un sentiment d'excellence ou d'exclusivité, mais de partage. Et conformément à cet article, voici quelques possibilités de déclaration pour ces manifestations représentatives. Lorsque ces manifestations sont présentes au-delà du territoire d'une communauté autonome, à défaut d'un instrument juridique de coopération entre les régions pour la pleine protection du bien, lorsque la bonne compréhension du bien requiert sa considération conjointe et unitaire, et aussi si le bien a une importance particulière ou internationale pour la communication culturelle en tant qu'expression d'une culture commune avec des autres pays. Entre la version du projet de loi et de la loi finalement adoptée, le cas le plus controversé a été exclu, mais il nous dit déjà quelque chose sur le caractère de la loi. Il s'agit d'une situation dans laquelle un bien immatériel ne peut pas être séparé de l'imaginaire collectif espagnol, de la tradition espagnole dans son ensemble. Ceci s'explique peut-être parce que c'est pas facile de parler d'un seul imaginaire collectif en Espagne et pas d'une tradition dans tout l'État espagnol. Et il s'agirait donc d'une simplification qui aide un peu à nourrir un stéréotype qui maintenant profite à personne. Bon, l'article 14 remplace l'article 5 du projet de loi et renomme l'inventaire national, qui s'appelait, pour inventaire général du patrimoine immatériel. L'inventaire général inclura des informations actualisées sur les manifestations qui la composent. L'inventaire général inclut le bien culturel immatériel déclaré par les communautés autonomes avec le plus haut niveau de protection, ainsi que se protéger par l'État sur la catégorie de manifestations représentatives de patrimoine immatériel. Et la déclaration, liste, inventaire et atlas de communautés autonomes qui doivent être inclus dans l'inventaire général doivent respecter l'enregistrement avec des méthodologies communes et doivent se rapporter à l'inventaire par le biais de médias digitales interopérables. L'intrusion dans la responsabilité des régions a fait l'objet de plus grandes critiques de députés, mais la majorité absolue du gouvernement dans le moment de la proclamation de la loi a permis son approbation pratiquement en solitaire. Mais il est intéressant d'analyser les débats parlementaires sur cette loi pour vérifier la sensibilité de députés au patrimoine immatériel. Reste encore à vérifier si l'animation de ce débat parlementaire relève l'intérêt de députés au patrimoine immatériel, comme tout, ou de la relation de pouvoir qu'il y a entre l'État et les communautés autonomes. En décembre 2016, quel a été le parcours de la loi? Bon, il a eu 5 amendements de rejet pour l'ensemble. Il avait quelques appels devant la Cour constitutionnelle pour ingérence des compétences de la part des intérêts régions. Et aussi, il y a 3 propositions de déclaration de manifestations représentatives du patrimoine immatériel. Le carnaval, la transhumance et la semaine sainte. On aborde enfin le bloc régional, en commençant par une vue d'ensemble sur le traitement du patrimoine immatériel reçu dans les règles des communautés autonomes qu'on peut voir. Tout d'abord, dans la législation régionale, il y a un mélange, comme vous pouvez voir, de l'utilisation d'adjectifs entre culturel et historique. Et ce peut sembler apparemment aléatoire, mais c'est le patrimoine immatériel qui fait ces différences de concepts. Parfois, les choix d'une ou d'autre est expliqué dans les préambules de la loi et souvent, il estime que le bien matériel, le bien meuble ou immeuble, sont contenus dans l'adjectif historique, tandis que les actifs immatériels sont inclus dans les mots culturels, bien que les deux adjectifs soient utilisés indifféremment dans le contexte international. Cela montre combien le patrimoine immatériel a changé les concepts de la réglementation du patrimoine culturel en Espagne. On va regarder deux exemples. La Catalogne, déjà utilisée pendant les années 90, l'adjectif culturel, elle l'explique dans son préambule comme suit. Le patrimoine culturel comprend le patrimoine meuble, le patrimoine bâti et le patrimoine immatériel, et les manifestations de la culture traditionnelle et populaire. L'Extrémadure établit une distinction assez radicale, je dirais même un peu dépassée, avec le traitement de patrimoine comme historique et culturel, même si le plus étonnant, c'est le cas de La Rioja qui ajoute aussi l'adjectif artistique. Et ceci s'explique dans la loi comme suit. Ce concept général de patrimoine historique et culturel comprend aussi bien meubles et immeubles, et le patrimoine immatériel et intangible qui unit les valeurs traditionnelles de la culture et du mode de vie de nos gens qui sont dignes d'être préservés. La législation régionale sur le patrimoine immatériel surprend parfois par leur date, et notamment certaines lois du patrimoine culturel des années 80, alors qu'il faisait encore temps pour l'UNESCO d'utiliser le terme immatériel et de légiférer à ce sujet, inclut le patrimoine immatériel. Voici trois exemples aussi de la façon de traiter le patrimoine immatériel dans trois normes de générations différentes. L'article 51 de la loi de patrimoine culturel basque considère le patrimoine ethnographique comme un ensemble de actifs matériels et immatériels où la culture traditionnelle basque est manifestée. Après, elle donne la loi de patrimoine culturel de la communauté valencienne, qui font aussi partie du patrimoine culturel de la communauté valencienne comme bien matériel du patrimoine ethnologique, la création, connaissance, pratique de la culture traditionnelle de Valence. Font également partie de ce patrimoine les expressions de tradition du peuple valencien dans leurs manifestations musicales, artistiques, en particulier celles qu'on fait de objet de la transmission orale et qui maintient et améliore l'utilisation de la langue valencienne. La langue, c'est aussi un conflit dans les lois régionales. Une des plus récentes, la loi de patrimoine culturel de Castille-La Mancha. Je suis désolée par les formats, mais bon. Il dit que cette loi remplace une autre des années 90 et permet d'adapter le concept au concept existant de patrimoine immatériel. Cette mise à jour est également destinée à assumer l'extension de ces concepts à l'héritage qu'on appelle immatériel, intangible, dans le sens indiqué par la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, signée à Paris le 7 octobre, ratifiée par Espagne en octobre 2006. Cependant, malgré ces propos de mise à jour, la présence dans ces lois de patrimoine immatériel, ce n'est pas évident. Il apparaît seulement lorsqu'une catégorie de biens d'intérêt culturel immatériel qui est évoqué à l'article comme bien immatériel, manifestation culturelle vivante associée à un groupe humain et due des significations collectives. En plus de notre 17 lois régionales, il y a 4 règles spécifiques de nature différente qui tiennent plus ou moins de réglementer sur le patrimoine immatériel. Et de nouveau, ils nous surprennent parfois par leur date. Parce que, comme dans le cas de certaines lois qu'on a vues, et nous trouvons des lois de Catalogne, des îles Baléares, qui incluent le concept de patrimoine immatériel en date très, très tôt et qui offrent aussi des concepts très innovants pour le moment, comme par exemple le transfert de pouvoir aux entités locales. Les communautés autonomes, comme on dit, déclarent bien d'intérêt culturel, dont parlerai, et même parfois développent aussi inventaire de patrimoine immatériel. Mais ces lois, néanmoins, ne disent rien sur le stratégie des sauvegardes essentielles pour le patrimoine immatériel, comme peut-être la documentation périodique ou le renforcement de protagonistes pour une gestion efficace de patrimoine immatériel. Lorsque la loi de patrimoine historique espagnol a été publiée dans les années 80, les anciens noms ont cédé la place à une nouvelle terminologie qui unifie sur le nom de bien d'intérêt culturel, BIC, la figure de protection maximale. Les lois de communauté autonome respectent principalement ces modèles de trois niveaux de protection fixés par la loi générale, le bien enregistré, bien de mots genrés et le bien d'intérêt culturel, qui est tout à fait, ils sont grands pensées pour le bien culturel de nature matérielle. Bon, une précision. Et bien que la loi espagnole attribuait les pouvoirs de déclaration de BIC à l'administration générale de l'État, après des recours faits devant la Cour institutionnelle dans les années 80 par trois communautés autonomes, Galicia, la Catalogne et aussi les Pays Basques. Et la déclaration de BIC est maintenant en responsabilité des communautés autonomes. Ainsi, dans toutes les normes régionales, apparaît la responsabilité pour l'enregistrement de biens culturels par la Direction générale du patrimoine culturel de région. Dans le patrimoine immatériel, l'absence d'un concept juridique commun génère un manque d'uniformité. Seules ces 12 régions ont défini dans leur législation le type de béquille matérielle comme indiqué dans les tableaux. Mais parmi les 5 régions autonomes qui ne figurent pas dans les tableaux, il y en a 3, Asturias, Galicia et Cantabria, qui ont effectivement déclaré bien immatériel, comme on peut voir dans la répartition territoriale de tous les environ 100 BIC immatériels déclarés en Espagne. C'est Valence, la communauté valencienne, avec 18 BIC immatériels déclarés, qui a produit plus de documents de déclaration et aussi la première à commencer à le déclarer. Rappelez-vous que le Mystère d'Elche a été déclaré monument national en 1931 par le gouvernement de la Deuxième République espagnole. Et enfin, en ce qui concerne le domaine où la particularité de ces déclarations des biens d'intérêt culturel sont mieux appréciées. J'utilisais pour cette analyse la relation de domaines suggérés par le plan national de patrimoine immatériel. Ce sont les espaces ou les environnements où les patrimoines immatériels en Espagne se développent. Et cependant, je sais que chacun de bien participe dans plusieurs domaines alors que c'est un fait social total. Mais je pris en compte pour l'analyse le domaine dans lequel la plupart de ces valeurs culturelles sont intégrées. Comme montrent les graphiques, il est évident la prééminence des domaines liés à croyances rituelles et aussi à spectacles de jeux traditionnels, tout ça. La survivance de ces manifestations de caractère festif ou des loisirs est due à ce qu'ils sont développés en dehors aux activités productives et au mode de vie actuel, mais cela encourage un autre que ces manifestations culturelles immatérielles sont moins à risque de disparaître, même s'ils sont plus un danger de distorsion. On détecte aussi un risque de spectacularisation du patrimoine immatériel à travers ces déclarations de surtout bien très visuelles. Et bon, dans une situation idéale, ces déclarations de biens d'intérêt culturel ne doivent pas fonctionner, mais comme une dernière étape de tout le process de patrimonialisation. Mais la réalité, c'est que les biens distingués de cette manière sont en très faible pourcentage. Après une analyse de toutes les déclarations de biens d'intérêt culturel qui affectent au patrimoine immatériel, je conclus qu'il y a trop peu d'entre elles et servent effectivement à protéger les biens avec des instruments, des systèmes de protection spécifiques, tandis que les autres sont seulement descriptifs. Et ça, sans aucune doute, la singularisation combique. C'est vrai, mais dans l'actualité, en manifestation culturelle immatérielle, elle est tout à fait plus reconnue. Mais il est douteux que les déclarations des BIC comme sont aujourd'hui servent à faciliter la sauvegarde effective du bien, mais dans la plupart des cas, ils répondent plus aux intérêts politiques ou économiques liés surtout au tourisme. Et bon, il y a quelques initiatives prises par les entités locales pour gérer leur patrimoine, mais bien sûr, ceci ne sont pas motivés par l'existence d'une législation à cet effet. La seule loi où les autorités locales apparaissent comme responsables de ce patrimoine, de patrimoine immatériel, est le décret subventionné du patrimoine festif de la Catalogne. Il dit que la municipalité et autres autorités locales, dans le cadre de ses compétences, devraient assurer le maintien du festival des éléments festifs déclarés, délivrer les règles nécessaires à la protection des structures spatiales et adopter des garanties physiques de préservation et améliorer leur documentation. La nouvelle loi de patrimoine culturel immatériel ne dépose pas dans la municipalité la capacité de protection de leurs biens immatériels, mais cela lui-même est un peu suggéré, un peu contenu dans le plan national de sauvegarde de patrimoine culturel immatériel de 2011. Dans ce texte, et mis en évidence la nécessité de coordination entre les autorités locales et aussi l'importance d'autres institutions plus petites, on dirait, en contre aux administrations nationales et régionales. Et il souligne la nécessité de ces coordinations, indiquant que les activités non coordonnées au consensus peuvent faire de dommages irréparables à la nature de manifestations culturelles immatérielles. Le rôle des initiatives locales dans le domaine de la gestion du patrimoine culturel immatériel est rare dans la théorie, mais c'est très pertinent dans la pratique. Toutefois, c'est dommage que dans la gestion d'un type de patrimoine lié autant, qui a autant à voir avec l'identité et qui se réfère donc immédiatement au niveau local, les municipalités n'ont pas la possibilité d'organiser la gestion à travers de la connaissance et de contacts plus directs avec du bien. Bon, j'essayais de vous montrer les lois fondamentales régissant le patrimoine immatériel en Espagne au niveau national, régional et local, mais il y a beaucoup d'autres règles qui les concernent, comme certaines liées, par exemple, à la propriété intellectuelle dont on a parlé, à l'utilisation de terres, l'économie productive, etc., et les problèmes de manque de coordination entre les administrations que chacune et tous souffrent à un moment donné, est plus marqué pour la gestion de patrimoine immatériel à cause de législations contradictoires. On imagine par exemple le cas d'une usine de fromage qui fabrique des produits avec des techniques d'utilisation traditionnelle, mais qui ne répond pas à certaines lois, je sais pas, européennes en matière de santé, etc. Bon, malgré le cadre réglementaire complexe que j'essayais de résumer en 5 minutes, je pense que les initiatives des agences sont en avance à la législation. Et bon, les manifestations culturelles et matérielles sont vécues longtemps avant qu'il y ait de règles qui essayaient de la légiférer. Et même maintenant, ils se développent souvent dehors des règles. Merci.
Merci beaucoup, Sarah González-Cambeiro. Est-ce que quelqu'un d'emblée souhaite réagir à votre intervention et poser une question? Alors merci de nous avoir montré toute la complexité de l'articulation entre le niveau national et le niveau local dans le contexte d'un pays où effectivement les gouvernements autonomes, les régions ont des pouvoirs très, très étendus.
Oui, pas seulement le pouvoir, c'est pas un problème maintenant, c'est les conflits de pouvoir avec l'État, même dans un moment politique un peu compliqué dans le cas espagnol et surtout avec des régions qui ont des identités très fortes et qui n'ont pas une bonne communication, en quelques cas, avec l'État.
Jérôme, oui.
C'est plus une remarque hein, qu'une question. Je trouve que la loi espagnole est intéressante par rapport à la définition, puisque, si j'ai bien compris, on a une définition qui ne fait pas de référence directe à la Convention.
Dans la nouvelle loi, il reprend le concept de la Convention. Il utilise le concept littéral de la Convention. Et il dit, c'est le concept de l'article 2 de la Convention de sauvegarde du patrimoine. Oui, il est absolument indiqué, oui. D'accord. Oui, mais il est un peu plus allongé que dans la vôtre, parce que c'est tout le conseil avec deux paragraphes comme ça de la Convention.
Une question encore?
Merci d'abord pour cette conférence. Moi, je suis pas du tout, enfin, je suis totalement novice en droit, mais je suis venue parce que je m'intéresse beaucoup à la préservation des arts vivants, notamment d'un point de vue anthropologique. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est vraiment la différence des plans de sauvegarde qui sont faits entre la France et l'Espagne. parce que j'ai l'impression en France, et notamment que ces deux lignes, en fait, aujourd'hui, surtout, empêchent la destruction immédiate de certaines pratiques, comme la corrida ou la burqa que vous avez évoquées tout à l'heure, alors qu'en Espagne, il y a vraiment un plan de sauvegarde qui est fait avec beaucoup de protagonistes mis en œuvre pour que ça fonctionne. Et justement, en France, je me demande aujourd'hui quelle est la possibilité, est-ce que ces deux lignes ont une influence ou peuvent avoir une influence sur les restrictions de budget, notamment sur les municipalités ou sur la culture, au ministère de la Culture, en fait.
Alors, je ne sais pas si je peux répondre. Ces deux lignes, c'est plutôt un peu l'aboutissement d'une phase, si vous voulez. Effectivement, alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu en France, au cours de ces 10 dernières années, quelque chose de comparable au plan national que vous évoquiez, Sarah, dont vous nous aviez parlé d'ailleurs la première fois lors de notre première rencontre, quand vous aviez présenté à Vitré la manière dont l'Espagne, sans qu'il y ait encore une loi, mettait en œuvre la Convention. Il n'y a pas eu une forme d'engagement aussi claire en faveur du patrimoine immatériel dès 2006. Il y a eu des activités, ce n'est pas le lieu ici de les développer, il y a eu des activités essentiellement en termes d'inventaire du patrimoine immatériel, puisque c'est une obligation d'après la Convention. En termes de candidature, on l'a dit aussi, avec les limites que l'on voit. Et beaucoup, et c'est peut-être une originalité au niveau national, en tout cas, de recherches lancées sur le patrimoine culturel immatériel en tant que politique. De recherches à caractère soit ethnologique, soit économique, juridique, sur le concept de patrimoine culturel immatériel. Et après beaucoup des initiatives au niveau local, oui, il y en a eu. Certaines régions, dans la foulée d'ailleurs parfois d'inscription à l'UNESCO, ont mis en place des dispositifs spécifiques. Par exemple en Bretagne, où on a créé une structure ad hoc, l'association Bretagne Culture Diversité, en charge du patrimoine culturel immatériel. Mais ça ne s'est pas inscrit dans un cadre d'ensemble parce qu'il n'y a pas eu un outil un peu structurant comme peut l'être le plan national en Espagne, malgré les tensions qu'on voit bien à l'œuvre.
Puis bon, le plan national, je pense que c'est un instrument qui a succédé par sa implication de tous les acteurs, surtout dans le réunion de cette commission que je vous avais parlé des suivances de plan. Si ça serait un instrument unilatéral de seulement de la part de côté de l'État, il n'y aurait pas aucune parcours de plan national, parce que la situation avec les communautés autonomes que je vous ai parlé, et c'est pas seulement une question conceptuelle, mais c'est une question de travail pratique. Presque tous les initiatives les plus importantes sont prises par les communautés autonomes, donc l'État peut, avec ses propres capacités, accompagner les communautés autonomes, faire un peu de soutien des communautés autonomes et faire un peu de cohésion entre les communautés autonomes, mais peut pas prendre des initiatives trop inclusives, parce que c'est fermé le chemin immédiatement par les côtés des communautés autonomes. Donc, dans votre cas, c'est un peu différent par les contextes politiques, mais le plan national de patrimoine immatériel, même d'ailleurs, c'est suivant ce que je vous commande, et c'est un document très intéressant, surtout pour toi, tu m'as dit que anthropologue, je ne sais pas, apprendre le concept, le critère, la méthodologie qui sont pris en Espagne pour la définition et la gestion de patrimoine immatériel. Tu peux le consulter sur la web.
Merci.
Noé. Juste une toute petite précision pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la burqa. Le droit français actuellement n'est pas... pas un vecteur, évidemment, de protection de la burqa, on est bien d'accord. Au contraire, le but, c'est de l'éradiquer de l'espace public, simplement pour des raisons de conventionnalité et de constitutionnalité. On a dit, on ne va pas éradiquer la burqa, on va éradiquer toute dissimulation du visage dans l'espace public. On a dit, mais par contre, vous avez une liberté de dissimuler votre visage lorsque c'est dans le cadre de manifestations traditionnelles. Et c'est là que la question du PCI peut-être intervient. Mais par contre, la burqa en tant que telle n'est pas protégée.
On pense aux processions, par exemple.
Aux processions, voilà. Carnaval, tout ce que vous voulez.
Encore une question, et puis on va reprendre le fil de nos interventions.
Bonjour, merci. J'avais juste une question par rapport à la notion de communauté autonome. Peut-être que vous l'avez explicité, mais je suis passée à côté, en fait. Mais en droit espagnol, la communauté autonome, c'est un concept reconnu, en fait, constitutionnellement, c'est ça?
Les communautés autonomes, oui. Bien sûr, oui, ils ont aussi chacun ses statuts d'autonomie et, par rapport à la Constitution, et ils sont maintenant, je pense, en train de aussi les rénover, mais pour renforcer ses capacités.
En fait, je posais la
question. Oui, les communautés autonomes et les régions, ce sont des concepts.
C'est ça. C'est l'équivalent des régions, en fait.
Non, je parle de concepts juridiques, oui.
Parce que la différence aussi avec la France, c'est que nous, en fait, en termes de communauté aussi locale, c'est beaucoup plus flou. Enfin, moi, j'habite à Cayenne, en fait, je travaille pour la Guyane en ce moment. Et là, on a un problème aussi en termes de communauté locale, par exemple. En fait, le concept est beaucoup plus flou. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'adéquation entre la région et une communauté porteuse de savoir traditionnel. Et ça, c'est un vrai problème aussi.